Bonsoir, Martin Fayoulou et Maître Théodore Ngoy, deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de décembre 2018, accusent le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir violé la Constitution en nommant deux juges de la Cour constitutionnelle à la Cour des cassations alors qu'ils exerçaient encore leur mandat. Ils estiment qu'il s'agit là d'une violation intentionnelle de la Constitution qui devrait pousser les deux chambres du Parlement réunies en Congrès d'accuser le président de la République des hautes trahisons. Le président de la République a-t-il commis l'infraction de haute trahison que prévoit la constitution de la RDC pour les cas de destitution du président de la République? C'est le thème du magazine Dialogue entre Congolais de ce soir. Participe au débat Maître Théodore Ngoy, politologue et docteur en droit. Il est ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018 en RDC. Il est également avocat de Kilomba et Obulu, deux juges nommés récemment à la Cour des cassations par le chef de l'État. Maître Théodore Ngoy, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, député provincial et cadre du parti politique UDPS, membre de la plateforme CASH. Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, bonsoir. Apparemment, le professeur n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et le professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur Jeff Mudimbi, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Merci de nous suivre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, sous la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, Martin Fayoulou et Maître Théodore Ngoy, deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de décembre 2018, accusent le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir violé la Constitution en nommant deux juges de la Cour constitutionnelle à la Cour des cassations, alors qu'ils exerçaient encore leur mandat. Il s'agit du juge Noël Kilomba et son collègue Obulu. Pour Martin Fayoulou et Maître Théodore Ngoy, la Constitution n'autorise pas cette permutation. Ils estiment qu'il s'agit là d'une violation intentionnelle de la Constitution qui devrait pousser les deux chambres du Parlement, réunies en Congrès, d'accuser le président de la République des hautes trahisons. On écoute cet extrait de Martin Fayoulou, président du Parti politique et SID.
Nous disons ici, nous voulons construire un état de droit. Ce n'est pas un mot qu'on lance en vain. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoy. J'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non, nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution.
Martin Fayoulou et Théodore Ngoy ne font qu'exécuter le plan diabolique déjà planifié par le FCC, propos du secrétaire général de l'UDPS à Radio Okapi. Pour Augustin Kabuya, ce n'est un secret pour personne. Le FCC tient à obtenir la destitution du président de la République, avant d'ajouter que le FCC ne doit pas croire que la RDC est une propriété privée de Joseph Kabila, où il peut partir et revenir comme il veut. Augustin Kabuya le dit au micro de Blaise Shindani.
Messieurs ont fait qu'exécuter les plans diaboliques déjà planifiés par l'FCC. Rappelez-vous, quand l'FCC voulait à tout prix se débarrasser de l'honorable, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, ils avaient utilisé le député Jean-Jacques Mamba du MLC, une façon de se cacher derrière ces derniers. C'est le même chemin qu'ils ont utilisé cette fois-ci pour attaquer les chefs de l'État. c'est l'FCC qui est derrière. Mais M. Fayoul doit comprendre une chose. Il avait monté un coup à Genève, ce coup-là n'avait pas réussi. Les plans de Dieu pour le Congo, actuellement, la solution s'appelle Félix Tshisekedi. Le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution. Hier, Fayoul a attaqué la Cour constitutionnelle qui sont au service de Joseph Kabila. À la grande surprise générale, c'est Fayoulou qui est devenu défenseur de ces mêmes juges-là.
C'était là Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS. Maître Théodore Ngoy, vous êtes politologue et docteur en droit, ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018 en RDC. Vous êtes également avocat de Kilomba et au boulot de juge nommé récemment à la Cour des cassations par le chef de l'État. Vous accusez le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir violé intentionnellement la Constitution en nommant deux juges de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. Sur quoi vous basez-vous pour dire que le président a violé intentionnellement la Constitution?
Madame, d'abord, il faut corriger ce que Augustin Kabuya vient de dire et même ce que vous, Radio Okapi, vous dites. Premièrement, s'agissant de M. Fayoulou, il n'a pas accusé. M. Fayoulou a fait preuve, pour moi, d'une grande élévation d'esprit en soutenant la démarche de l'avocat que je suis. M. Fayoulou m'a reçu à ma demande. Enfin, si vous allez le voir pourquoi, parce que j'ai appris que lors de son meeting, il a soutenu ce que je fais en tant qu'avocat, pas en tant que candidat à président de la République aux élections 2018 ou en tant que président de mon parti politique, mais en tant qu'avocat. Point. Consulté et constitué conseil par le juge de la Cour constitutionnelle Kilomba et M. Oboul.
Alors, vous accusez, ensuite, oui ou non, le président d'avoir violé la Constitution, Maître Théodore?
Avant que je réponde à ça, il faut lever l'équivoque, madame. Monsieur Augustin Kabuya prétend le fait que, par leur avocat, les juges font constater au président de la République, dans une lettre lui adressée, qu'il a violé la Constitution, c'est un plan diabolique du FCC. Et j'ai appris qu'on me présente dans les médias comme étant celui qui exécute ce plan. Madame, il est important que vous sachiez qui je suis. J'ai été mis en prison au temps de loi de Kabila. C'était le plan du FCC. Je contestais la violation du droit des magistrats et des agents de l'Expertise Congo. C'était pour l'FCC. Au contraire, on disait à l'époque que c'était pour l'UDPS. Mais moi, je ne faisais que défendre le droit. J'ai été mis en prison par Joseph Kabila. Ma maison a été incendiée parce que je défendais le droit. Quelqu'un a été tué, la femme de mon collaborateur, M. Mouchipaï, a été tué. C'était pour le compte de l'FCC. Les gens doivent être sérieux. Le président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution. En prenant la décision par les deux ordonnances de juillet 2020 de remplacer les juges Kilomba et les juges Oboulou, il a violé les dispositions de l'article 158 de la Constitution. Voilà, la Constitution a décidé que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si il y a une assemblée qui est élue, qui n'est pas une majorité du président de la République, il n'est plus le seul chef de l'exécutif. Il y a bicéphalisme à la tête de l'État. Nos institutions sont les résultats d'une construction mimétique des institutions françaises. Le premier à expérimenter la cohabitation, en fait, la coexistence des pouvoirs, c'est François Mitterrand. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a aussi dit à la suite de Mitterrand, dans son unique allocution à ce jour, sur l'état de la nation, il a reconnu qu'il était sorti de l'opposition, mais qu'il y avait une majorité en face de lui qui lui était opposée. Il a donc choisi de faire une coalition. En fait, c'est une coexistence, c'est une cohabitation. Dans la cohabitation, c'est pas lui qui prend les ordonnances, c'est le Premier ministre qui les prend, et le président de la République apporte sa signature. Mais en tout cas, un juge à la Cour constitutionnelle est inamovible. Il est juge pendant 9 ans. Il ne quitte la Cour que lors du renouvellement par tiers, tous les 3 ans. S'il n'a pas quitté la Cour par expiration de son mandat, par démission volontaire, par démission d'office ou par révocation. Mais dans les cas d'espèce, il n'y a ni démission d'office, ni démission volontaire, ni révocation, ni expiration de mandat. Il n'y a même pas renouvellement de la Cour, parce que le dernier tirage au sort a eu lieu en 2018. Le suivant va avoir lieu en 2021. La loi portant aux anciens fonctionnements de la Cour constitutionnelle a décidé, article 2, madame, et article 4, que la nomination qui viole ces dispositions, c'est-à-dire si on nomme quelqu'un en dehors du tirage au sort un juge, on en nomme deux, par contre, cette nomination est nulle et dénie les faits.
Vous appelez le Parlement à convoquer un congrès pour mettre en accusation le chef de l'État pour l'infraction de haute trahison. Maître Théodore Ngoy, cette démarche est-elle opportune en ce moment?
Bon, d'abord, ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Je précise que j'ai adressé au président de la République une lettre dans l'exercice de ma profession d'avocat. Dans cette lettre, je mets en exergue les violations intentionnelles de la Constitution, de la loi portant aux engagements fonctionnement de la Cour constitutionnelle, de l'ordonnance qui porte statut particulier des juges de la Cour constitutionnelle, et même du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, et je lui dis que c'est parce que les ordonnances qui remplacent mes clients et qui les nomment à la Cour de cassation, ces ordonnances-là violent la Constitution, il peut les rapporter. C'est ça que j'ai demandé au président. Mais j'ai relevé aussi, comme la Constitution le prévoit, qu'il est loisible au Parlement réuni en Congrès d'exercer le pouvoir que la Constitution lui a donné dans une Constitution approuvée par le peuple congolais par référendum. Ce pouvoir, c'est de voter une mise en accusation au cas où il ne rapportait pas ses ordonnances. Ce n'est pas accuser le président de la République. Je ne cherche pas la déchéance du président de la République.
Si c'était le
je
cas,
cherche le
si
rétablissement c'est... dans les droits de mes clients
si
par
c'est...
le président de la République qui prône l'état de droit qui est prévu dans notre Constitution. Tout ce que je demande, et c'est un droit, on ne peut pas commencer à menacer quelqu'un comme on le fait maintenant. On me menace. On menace quelqu'un qui est avocat, qui tout simplement défend le droit. Le chef d'État devrait m'appeler, me saluer, me féliciter du fait que je mets à sa disposition une réflexion des juristes. Il faut que ceux des lits de presse, ceux d'ailleurs, répondent, n'est-ce pas, aux arguments de droit que j'ai donnés.
Merci.
Et puis, madame.
Merci, maître.
Madame, une dernière chose. Juste une dernière chose.
Rapidement.
Lisez les ordonnances. L'on dit que c'était sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais où est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni? Donc, on a affaire éventuellement à une fois en écriture. Et je voudrais préciser que le président de la République peut être poursuivi pour une infraction de droit commun, lui et les complices et les compteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution.
Merci maître Théodore Ngoyi, on vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole au professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Professeur, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, madame. Je salue le confrère Théodore Ngoyi et nos auditeurs.
Voilà, je rappelle que vous êtes député provincial et cadre du parti politique UDPS, membre de la plateforme Cash. Comment vous répondez aux propos de maître Théodore Ngoyi qui estime que le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution en nommant deux juges de la Cour constitutionnelle à la Cour des cassations?
Merci madame. D'abord, je dois rassurer le confrère Théodore Ngoyi qui n'est pas menacé. Le pouvoir de Tshisekedi, ce n'est pas un pouvoir de menace comme celui dans lequel il a vécu avant. Il n'est pas menacé, il doit se sentir en sécurité. Il doit se sentir sous la couverture de la loi de son propre pays. Il n'est pas menacé du tout. Amen. À la question de savoir si le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution de la République, moi je vais par deux formules. Premièrement, c'est la question de savoir si le chef de l'État a violé intentionnellement. Et après, nous allons voir les conséquences qu'il tire par rapport à ça, comme il appelle le Congrès à se réunir pour mettre en accusation le chef de l'État. En ce qui concerne la violation, il a soulevé le problème du contre-saint. J'invite le professeur Théodore Ngoyi à lire attentivement l'histoire constitutionnelle de notre pays et la valeur du contre-saint dans l'actuelle constitution de la République par rapport à toutes les autres constitutions que nous avons connues. Lorsqu'il peut partir de la constitution de Loibourg, par exemple, plutôt de la loi fondamentale, il va voir que l'article 20 de la loi fondamentale il posait clairement le principe selon lequel aucun acte du chef de l'État ne pouvait avoir des effets s'il n'était pas contresigné par le Premier ministre. Ça signifie que le contresigné dans cette loi fondamentale était un acte de validation des actes du chef de l'État. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsqu'il lit l'article 69 de la Constitution de Loibourg, par exemple, il va voir que le contresigné avait une autre signification. Parce que le membre du gouvernement, le Premier ministre, qui contresignait les actes du président de la République, s'engageait tout simplement à les faire exécuter ou à les exécuter. Et avec l'évolution dans la Constitution de 67, il va voir que le contre-saint était un simple acte d'information. Ce n'est pas la même valeur que le contre-saint a aujourd'hui dans la Constitution actuelle où il est un simple acte d'authentification de la signature du chef de l'État. Donc, il est, je crois, mal parti en posant le principe qu'il y a eu ou pas contre-saint. Mais s'il faut poser la question...
Mais puisqu'ils sont en coalition, le FCC et ICAJ sont en coalition, est-ce que le contre-saint du Premier ministre n'était pas nécessaire dans la nomination de ces juges?
D'abord, c'est une erreur lorsqu'il a dit le FCC et le CAC sont en cohabitation. Nous ne sommes pas en cohabitation. Vous avez heureusement corrigé, nous sommes en coalition. Et dans cette coalition, ça ne signifie pas que l'on veuille passer outre les principes tels que posés. Le Premier ministre a bel et bien contresigné les ordonnances du chef de l'État, parce que le Premier ministre n'est pas un individu physique, c'est une institution. Et que, dans le cas d'espèce, le vice-premier ministre qui était là en fonction, parce que cela est prévu par notre constitution, et qui assurait l'intérim du Premier ministre, qui est un intérim en pied, en fait, qui ne doit pas être dévolu par le Premier ministre partant. L'intérim s'exerce automatiquement dès que le Premier ministre est indisponible. Ça, c'est clair dans notre constitution. Il n'y a pas matière à réflexion là-dessus.
Professeur, par rapport à l'ordonnance même signée par le chef de l'État, nommant les deux juges de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation, y a-t-il eu violation de la Constitution? Oui ou non?
Il n'y a pas eu violation de la Constitution. Il faut que M. Théodore Ngoï rappelle les conditions dans lesquelles Kilomba lui-même et Oboulou sont arrivés à la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il dit qu'il y a eu tirage au sort en 2018, c'est une contre-vérité. Il n'y a pas eu tirage au sort en 2018. Peut-être qu'il avait oublié, je dois le lui rappeler, il n'y a pas eu tirage au sort. Ils sont arrivés dans les mêmes conditions et que cette pratique, nous l'avons vécue dans ce pays, elle n'a jamais été contestée par qui que ce soit. Le président de la République...
Donc l'UDPS refait les erreurs du passé?
Ce n'est pas un problème d'erreur du passé. Nous disons ici que le problème de violation de la Constitution doit se constater. Alors madame, pour rappeler à M. Théodore Ngoï ce qui est essentiel à cette espèce, lorsqu'on dit que le président a violé intentionnellement la Constitution et que l'on dise que c'est une infraction de haute trahison, voici ce que je dois lui dire. Les actes du président, en cette matière précise, sont des actes administratifs qui le retiennent. Étant des actes administratifs, c'est des actes susceptibles du contrôle juridictionnel. Les uns a priori, les autres a posteriori. On ne peut pas violer intentionnellement la Constitution par un acte administratif qui pourtant est un acte susceptible du contrôle juridictionnel. Ça signifie qu'à ce niveau, la possibilité que lui, comme conseiller de Oboulou et de Kilomba, pour, après avoir exercé un recours administratif recommandé par la loi sur les juridictions d'ordre administratif, ils n'ont qu'à saisir le conseil d'État, parce que dans leur correspondance adressée au chef de l'État, ils n'ont pas évoqué ces violations qu'ils présument, ils ont évoqué des violations de la loi. Et qu'en écrivant au chef de l'État, c'est un recours qu'ils ont exercé, ils ont le temps de saisir le Conseil d'État pour faire respecter la loi prétendue violée en l'espèce. Maintenant, lorsqu'ils tirent des conclusions trop hasardeuses par ailleurs, d'abord en disant qu'il y a un Parlement élu, alors que Martin Fayulu, avec lequel il a siégé, dit que Tshisekedi est illégitime, de l'autre côté, il prépare de saisir le Parlement légitime cette fois-là. Je crois que Martin Fayulu reconnaît le Parlement et non Tshisekedi, de même élection, parce qu'il projette de saisir le Parlement. C'est des erreurs politiques que je conseille aux confrères de ne pas commettre. Mais enfin, lorsqu'on va dans la procédure même de cette saisine du Parlement, qui lui a dit, qui leur a dit, que le Parlement a le pouvoir, parce qu'il a évoqué la séparation des pouvoirs ici. Le Parlement a-t-il un pouvoir d'initiative en matière de poursuite contre le chef de l'État? La haute cour, la cour constitutionnelle, avait déjà donné réponse en 2017 à cette question-là. Le Parlement n'a pas le pouvoir d'initiative en cette matière pour poursuivre le chef de l'État. Que l'on présume même qu'il y a eu violation, que ça soit une violation intentionnelle de la Constitution, les principes que pose le règlement intérieur de la cour constitutionnelle sont clairs à partir de son article 61. Vous allez constater que le règlement intérieur précise que le procureur général assure l'exercice de l'action publique, il reçoit les plaintes, les dénonciations et rassemble les preuves. C'est auprès du procureur général, près de la cour constitutionnelle, qu'il devrait adresser les plaintes ou leurs dénonciations. À l'article 62,
mais le Parlement peut prendre la décision de poursuivre le chef de l'État.
Mais il n'a pas le pouvoir d'initiative, madame.
Mais l'article 166 de la Constitution dit quoi, professeur Chilumba? La décision de poursuite, ainsi que la mise en accusation du président de la République.
Le Parlement a le pouvoir d'autoriser les poursuites si elles lui sont demandées par le procureur général. Et l'article 62 du règlement intérieur précise: si le procureur général estime devoir poursuivre, on renvoie là encore au pouvoir discrétionnaire du procureur général, ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Le professeur Théodore Ngoï est un pénaliste que je respecte beaucoup, il connaît bien la matière là quiconque. Et lorsque vous lisez à l'article
63, vous verrez dans quelles conditions ces poursuites vont devoir s'effectuer, parce que là, on rassure que c'est la procédure ordinaire. Donc, au nom du principe de séparation du pouvoir, le Parlement ne peut pas s'ériger lui-même en parquet s'il ne décide pas, lui, de violer intentionnellement la Constitution également, ne pas s'ériger en parquet pour prendre les initiatives de poursuivre le chef de l'État.
Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la Faculté de Sciences Sociales, département de Sciences Politiques et Administratives de l'Université de Lubumbashi, le président de la République a-t-il commis l'infraction de haute trahison?
Merci beaucoup, madame, pour la question que vous venez de me poser. Et je voudrais, avant toute chose, saluer Maître Théodore et le professeur Chilumbayi. Et je suis vraiment un peu embarrassé par des propos parfois contradictoires de juristes sur la lecture de l'acte pris par le président de la République autour de la nomination de deux juges. Alors, moi, je voudrais dire ceci, je vais quand même faire une analyse purement politologique en me référant bien entendu aux dispositions de la Constitution. Alors, lorsque nous disons l'article 82 de la Constitution, cet article reconnaît bel et bien au président de la République les prérogatives ou les pouvoirs de nommer, de relever de leurs fonctions et le cas échéant de révoquer les juges par ordre des magistrats de siège du parquet, et cela sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, moi, mon problème est à ce niveau, lorsque nous voulons étudier la validité de l'acte du président de la République. Est-ce que dans l'ordonnance du président de la République a-t-il été fait mention de l'organe qui a été consulté avant la prise de cette décision? Et il me semble que dans l'ordonnance du président de la République, il a été fait mention sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Bon, à mon niveau, je pense que l'institution présidente de la République fait partie d'une haute institution du pays. Et que, à ce titre, je me demande si réellement le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas pu être consulté en cette matière-là pour que, au niveau de cette haute institution du pays, que l'on puisse faire un usage, un faux usage en écriture. Par ailleurs, on parle de la violation intentionnelle. Je pense que la Constitution elle-même précise en ses articles, en son article 165, les conditions dans lesquelles on peut réellement arriver à parler d'une violation intentionnelle de la Constitution. Bon, or, à ce niveau-là, il me semble que les deux juges avaient déjà consenti à la décision qui était prise par le président de la République. Ils avaient même déjà procédé à la remise de l'esprit, mais ce n'est qu'après, on dirait quelqu'un qui était endormi et qu'on a relevé brusquement, on lui pose maintenant la question, mais pour qu'est-ce que tu as fait? Alors il faut te ressaisir vite, vite. Donc, et ça, ce sont vraiment les interférences du politique. Et quand le politique s'interfère, alors à ce moment-là, il y a possibilité que l'on arrive à violer les dispositions de la Constitution. Mais ce qui est évident, et ici je voudrais quand même intervenir pour rappeler au professeur Chilumbayi que lorsque nous lisons très bien la Constitution en son article 166, il est dit ceci, que la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers des chambres du Parlement. C'est vrai, en évoquant la nature du régime politique, il a parlé du régime de séparation des pouvoirs. Or, le régime de séparation des pouvoirs s'incarne bel et bien dans le régime présidentiel dont celui des États-Unis est souvent présenté comme le modèle. Même aux États-Unis d'Amérique, où il y a la séparation des pouvoirs, il est reconnu que le Congrès a le pouvoir d'impeachment à l'égard du président de la République et de toutes les autres autorités politiques. Et quand on est dans la procédure d'impeachment, alors à ce moment-là, c'est le Sénat qui se comporte comme le juge et l'accusateur, c'est la Chambre des députés. Donc même à ce niveau-là, le Parlement peut mettre en cause le président de la République. Et nous pensons aussi Et au regard des stipulations de la Constitution, en son article 166, réellement, les députés, à la majorité d'ailleurs, de deux tiers du Congrès, c'est-à-dire le Parlement réuni en séance commune, peut bel et bien mettre le président en accusation, mais la décision de la déchéance ne pourrait être prononcée que par la Cour constitutionnelle.
Professeur Moudimbi, il y a cet auditeur patient Kenga depuis Lubumbashi qui dit ceci: l'inamovibilité des juges de la Cour constitutionnelle ne signifie pas qu'ils sont éternels dans leurs fonctions. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui lorsqu'il dit que les juges ne sont pas inamovibles, ils peuvent être remplacés par le chef de l'État s'ils jugent nécessaire?
Ok, merci beaucoup. Moi, je voudrais dire ceci. D'ailleurs, la Constitution est très claire. Personne ne peut se dire qu'il est éternel lorsque occupant une fonction, parce que j'ai toujours soutenu l'idée selon laquelle l'exercice d'un pouvoir politique doit amener ses détenteurs à se considérer comme des locataires qui doivent quitter le poste lorsque le contrat de bail arrive à terme. La Constitution elle-même précise bel et bien que la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Et cette Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Bon, alors, peut-être ce qui peut fâcher, c'est de constater que ces juges-là au niveau de la Cour constitutionnelle, leur mandat va jusqu'en 2021. Et que l'on arrive avant l'échéance de leur mandat au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'ils soient maintenant remplacés, qu'ils soient déplacés vers une autre juridiction. Alors, c'est cette disposition qui fâche et qui amène parfois les avocats, bien entendu, à se saisir de la question pour amener le président peut-être à rapporter ces décisions. Mais il y a des dispositions constitutionnelles qui peuvent être complétées par des lois organiques. Parfois, le problème maintenant est de savoir que dit le règlement intérieur de la Cour, de la Cour constitutionnelle, et aussi voir un peu certains actes portant fonctionnement de cette Cour si réellement ces actes-là n'autorisent pas le président de la République de pouvoir déplacer certains juges d'une juridiction à une autre.
Les auditeurs sont très nombreux à nous appeler, envoyer leur réaction. Maître Théodore Ngoï, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
Maître Edmond Bokolo, depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Monsieur Fayoulou et Maître Théodore Ngoï sont en train de distraire les gens et personne ne va les suivre. Le président de la République n'a pas violé la Constitution étant donné que les deux juges ont été nommés suivant l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. En RDC, il existe des cas jurisprudentiels, car le professeur Luzolo Bambilesa, nommé juge à la Cour constitutionnelle, a été par la suite nommé conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Le professeur Bundwawe, fut nommé premier président du Conseil d'État, alors que son mandat était en cours. Là, il n'y avait une pas violation de la Constitution. D'ailleurs, la procédure de destitution du chef de l'État en RDC n'est pas prévu. La mise en accusation de ce dernier n'est pas une mince affaire, car tout tourne autour du procureur général de la Cour constitutionnelle qui doit solliciter l'avis du Parlement. Maître Théodore Ngoï et honorable Fayoulou doivent cesser à nous distraire, car le pays a besoin d'un développement et non des discussions ou déclarations politiciennes qui visent l'intérêt privé et non pas pour l'intérêt de la population qui copie dans la misère.
Maître Théodore Ngoï.
Bien, merci. Je remercie le professeur Tshilombaï pour les mots par lesquels il a voulu me rassurer. Mais je voudrais qu'il sache que l'UDPS hier, dans son meeting, a parlé de moi comme de quelqu'un qui est au service du FCC. Et c'est pas juste ça. Et en disant ça à une foule, on est en train de me livrer en pâture. Je voudrais informer le professeur Tshilombaï que j'ai reçu un SMS que je vais lui envoyer de quelqu'un qui dit qu'il s'appelle Kamwelansapou, qu'il va venir m'agresser chez moi à la maison. Je vais lui envoyer ce message. je voudrais que Tshilumbay, qui est membre de l'UDPS, puisse faire passer ce message auprès du président de la République. On ne doit pas faire comme Napoléon le disait, il faut couper la langue de l'avocat qu'il utilise contre le gouvernement. Nous voulons un état des droits. L'état des droits admet la contradiction. Je voudrais commencer par l'intervenant de
Mbandaka.
Il cite Luzolo, il cite Bundao. Mais est-ce qu'il sait que Luzolo n'a jamais prêté serment comme juge à la Cour constitutionnelle? Le mandat du juge à la Cour constitutionnelle commence à courir à dater de sa prestation de serment. Voilà. Luzolo n'avait pas encore prêté serment. Il a accepté lui-même d'être nommé conseiller spécial du chef de l'État. Donc on ne peut pas dire que c'est un juge constitutionnel qu'on a nommé. Deuxièmement, Bundaoué, il a écrit, il a demandé au président de la République de le nommer là où il est prêt de la Cour du Conseil d'État. Parce que, en effet, le juge à la Cour constitutionnelle peut volontairement démissionné. Maintenant, je viens au juge Tshilumbay, enfin au président
au
professeur Tshilumbay. Il dit ce qui s'est passé en 2018. Mais soyons toujours corrects. En 2018, le 9 avril 2018, était prévu le tirage au sort. La veille du tirage au sort, le juge Kalonda meurt en Galiéma. Il était malade depuis très longtemps. Il n'y a plus de raison de procéder au tirage au sort dans son groupe, le groupe de ceux les trois juges nommés par le président de la République sur sa propre initiative. Les jours du vote, tous les juges sont là, sauf Bundaoué. S'élève le juge Baniakou. Il dit, je démissionne volontairement. C'est prévu. C'est un des modes par lesquels le mandat prend fin. Il dit, démissionne pour des raisons qui sont propres. Donc, il n'y a plus lieu de faire le tirage au sort, parce que le tirage au sort a pour but de remplacer un juge tous les trois ans dans chaque groupe. Un juge par groupe. Et donc, il n'y avait plus lieu de tirer au sort. Et dans le troisième groupe, le professeur Essambo démissionne aussi, comme juge de la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a plus de raison de procéder au tirage au sort. Où est la tricherie là-bas? Mais on est en train de nous parler de quoi? Bon, maintenant, le professeur Tshilumbay dit que moi, je me trompe en parlant de cohabitation alors que nous sommes en coalition. Je voudrais, j'ai le plus grand respect pour le professeur Tshilumbay et je sais qu'il va comprendre ce que je vais dire. D'où vient le vocable cohabitation? Ce vocable n'est pas dans la Constitution française. Il est né de la doctrine française. Il a fallu maintenant donner un nom au régime politique qui s'est créé pour la première fois en France à la suite de l'absence de ce qu'on appelle ici, chez nous, changement de majorité. Il y a eu changement de majorité et la nouvelle majorité n'était pas celle du président François Mitterrand. Par conséquent, le Premier ministre n'était plus un conseiller du chef de l'État. Le Premier ministre, c'était un chef à part entière de l'exécutif. C'est comme ça qu'on voyait Jacques Chirac dans les instances internationales à côté de François Mitterrand. Parce qu'il y a une hiérarchie qui s'installe. L'exécutif devient bicéphale. Alors, ils ont cherché un nom. Ils ont d'abord dit coexistence des pouvoirs, parce que c'est ça la réalité constitutionnelle et politique. Et puis, finalement, le mot cohabitation a dominé. Chez nous, à la même réalité politique et constitutionnelle, on a trouvé le concept coalition. Mais la réalité est la même. Il n'y a pas eu changement de majorité. La majorité ancienne s'est renforcée et le chef de cette majorité, qui est le Premier ministre, et le chef de l'exécutif avec le Premier ministre. Son contre-saint n'est pas là pour authentifier la signature du Président de la République, comme le dit le Président Tshilumbay. C'est l'expression de son pouvoir. Il arrête le pouvoir du chef de l'État par le fait qu'il a ses contre-saints.
On va prendre une autre réaction, cette fois-ci pour vous, professeur Tshilumbay.
C'est Ougane Mungwadjo et Gabriel depuis Kisangani, province de la Tchopo. Le partisan du cash doit savoir que, hormis la casquette du président de la République que M. Félix détient, il est aussi un citoyen et doit être traité comme tout le monde. Sans aller au dos de la cuillère, la constitution a été violée et continue à être violée. Les différentes nominations à la Cour constitutionnelle étaient plus politiques que juridiques. Il n'y avait aucune urgence de procéder à ces nominations. Mais il voulait plutôt prendre la Cour constitutionnelle comme son audience afin d'échapper à la haute trahison. Le pays vit le pire. Il est difficile que l'on accepte certaines choses sous prétexte d'une couverture politique. Le président a intentionnellement violé la constitution et doit être traduit en justice. C'est ça aussi l'effectivité d'un état de droit.
Professeur Tshilumbay, brièvement, comment vous répondez à cet auditeur de Kisangani?
Madame, la notion de violation intentionnelle de la constitution n'est pas un néologisme, hein, c'est une notion définie par la constitution elle-même. Il n'appartient ni à moi, ni au collègue Théodore, ni à notre auditeur
de pouvoir définir cette notion-là. Je voulais rapidement rencontrer un peu le professeur Moudimbe.
Moudimbe.
Voilà, Moudimbe. Voici, professeur, le problème ne se pose pas en ces termes. Ici, le problème est clair. Il n'y a pas de pouvoir d'initiative. Ce n'est pas le Parlement qui met en accusation le chef de l'État ou qui poursuit le chef de l'État. Le Parlement autorise les poursuites lorsqu'elles lui sont demandées expressément par le procureur général. Il autorise les poursuites. Il doit attendre que le procureur général le lui demande. Il n'a pas demandé à ce moment ici. Et c'est après ces poursuites que le procureur entrerait au Parlement pour demander l'autorisation de mise en accusation. C'est le procureur qui mettra en accusation, ce n'est pas le Parlement. Donc, ce régime n'a rien à voir avec la notion d'impeachment connue dans le régime américain. Donc, ce n'est pas ça la réalité. Le professeur Théodore, lorsqu'il parle de la coalition, de la cohabitation, non, nous ne sommes pas dans cette réalité. En France, il y a deux programmes qui s'opposent. Celui de la majorité présidentielle et celui de la majorité parlementaire, ils cohabitent parce qu'ils ne veulent pas fusionner. Nous, nous sommes ici dans une réalité telle que nous avons dit, nous ne cohabitons pas, nous coalisons, parce que nous avons décidé de fusionner nos programmes et de diriger ensemble. Cela explique que Ilunga Ilukamba ne sera pas aux côtés de Tshisekedi dans des forums internationaux, parce que les Tshisekedi représente la RDC et le programme du gouvernement en place, il le représente. Nous sommes d'ailleurs ce qu'on appelle en France le couplage, parce que là, la majorité parlementaire et la majorité présidentielle se sont retrouvés ou se retrouvent dans le même camp avec le même programme. La question du contre-saint, professeur, je dis bien, il faut donner au mot l'air effet-il. Je vous ai repris ça.
Professeur, cette émission est aussi pédagogique que prévoit la constitution de la RDC pour les cas de destitution du président de la République.
La constitution prévoit que s'il est établi les infractions de haute trahison qui concernent notamment les violations intentionnelles de la constitution, violations graves et volontaires des droits de l'homme, l'instauration d'un parti État par exemple ou d'un parti unique, si ces infractions sont établies dans le chef du chef de l'État et qui les établit, ce n'est pas nous, c'est le juge constitutionnel. Après que le procureur ait instruit qu'il ait décidé de saisir le juge constitutionnel. C'est ça que prévoit la Constitution. Ici, il faut commencer par poser la question si ces infractions ont eu lieu ou pas. Et ça ne relève ni du pouvoir de Martin Fayulu, moins encore celui du Parlement, c'est le pouvoir du juge.
Professeur Moudimbe, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Grâce à la civile province de Kinshasa, la nomination tribale et controversée de M. Fati mérite une sanction, celle de sa destitution. D'abord, ces ordonnances étaient prises à l'insu du Premier ministre. Le constat amer est que Tshisekedi marche sur les traces de Kabila, tendant toujours à violer la Constitution. Et pour justifier cette violation, on développe la thèse selon laquelle l'ex-président avait fait. Aujourd'hui, tout ce que Fati condamné hier à l'opposition devient actuellement normal à juger. Je salue la démarche de Mafa, car il a dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Franchement, Félix Tshisekedi doit être destitué. Toutes les initiatives allant dans ce même sens méritent le soutien du peuple congolais, car Fati nous a déçus.
Le professeur Moudimbe, brève réaction.
Merci beaucoup. Merci beaucoup et je salue mon compatriote de Kinshasa. Dans la démocratie, chacun est libre de pouvoir exprimer ses opinions. Mais ici, je m'en vais tout de suite là, m'y opposer un peu, m'opposer à ses déclarations lorsqu'il met l'accent sur les nominations tribales. À ma connaissance, tous les juges qui ont été nommés ne sont pas de la tribu du président de la République. Le tribalisme, c'est vraiment une tare. Je pense que nous devons avoir horreur d'en parler parce que dans ces nominations-là, on a vu quand même des gens aussi, d'autres tribus, des tribus autres que celles du président de la République. Mais ce qui est évident, je pense que lorsque nous sommes dans des pays à forte tradition démocratique, je pense que le problème ne se pose pas parce que on peut comprendre les phénomènes ou les faits qui se posent sur leur plan juridique.
Mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, vouloir expliquer totalement les nominations des juges sur le seul point juridique, on risque de biaiser la réalité. C'est ainsi que moi je pense que la meilleure explication de tout ce qui est arrivé là-bas doit reposer à la fois sur l'élément juridique et aussi sur l'élément politique. Et là, nous pourrons bien comprendre et nous pourrons facilement analyser la chose. Mais ce qui est évident, c'est que l'univers politique est un univers médiatisé. Et ça, le président de la République doit le savoir et son cabinet doit également le savoir, de manière à ce que, en matière de prise de décision, que l'on arrive à mettre, donc, à élucider tous les contours de manière à ce qu'on ne puisse pas prêter le flanc à l'ennemi et qui n'attend que ce genre d'occasion pour essayer de mettre à la place publique certaines incohérences au niveau de la présence ou encore certaines violations, entre guillemets, des dispositions légales et réglementaires qui régissent notre pays.
Merci, professeur Jeff Mudimbi. On va considérer cela comme votre conclusion. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous avez été très, très nombreux à nous envoyer vos réactions. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour les lire. Merci à Benjamin Les Bateaux depuis Kinshasa. Merci à Platon Kenvou. Merci à Benjamin qui nous a écrit des pierres à Riwara. Joachim Sumbu depuis Kinshasa. Junior Mungobo. Israël Toumba Kinshasa, Arsène Koulemboa et Jean Wonya Chabani depuis Lubumbashi, Maître Théodore Ngoy. Nous sommes à la fin de notre émission. Vous allez poursuivre, aller jusqu'au bout avec votre démarche.
Il est important que tous ceux qui nous ont suivis, qui suivent Radio Okapi, sachent que, comme l'a dit un intervenant, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Même pas le chef d'État, dans le contexte constitutionnel présent. Il est prévu que le président de la République respecte la constitution. Il prête serment devant Dieu et devant la nation, devant la Cour constitutionnelle, de faire respecter la constitution. S'il la viole et intentionnellement dit de manière délibérée, en sachant qu'il n'a pas le droit, le chef de l'État et Félix Tshisekedi sait qu'il n'a pas le pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un juge à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, le juge de la Cour constitutionnelle, dont le mandat prend fin, selon les modes prévus légalement, reste juste constitutionnel pendant 2 ans, sans exercer la fonction, il a droit à être payé, il a droit aux avantages. Merci. Mais mes clients, au moment où je vous parle, sont privés de ces avantages et même du salaire du mois de juillet. Ce n'est pas ça l'état des droits.
Merci.
Parce que c'est une violation des droits humains.
Merci, voilà. Maître Théodore Ngoy, professeur Jean-Claude Tshilumbay, votre conclusion.
Oui, madame, le président ne peut pas violer la constitution par un acte administratif. Ça, c'est faux. Deuxièmement, la Constitution n'est pas un code de procédure pénale. Ça ne se fait pas comme ça. La Cour constitutionnelle ne fonctionne pas avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et en 2017, je rappelle que la Cour avait été saisie sur cette question précise de savoir si le Parlement pouvait avoir un pouvoir d'initiative en matière d'infractions commises par le chef de l'État. La Cour avait dit non, le Parlement n'a pas le pouvoir d'initiative. Ce pouvoir réside au seul et au seul procureur général. Donc, il est hors de question de penser que les députés se réunissent, encore que le professeur ajoute que le président comparaîtrait. Il n'y a nulle part dans notre constitution l'hypothèse ou la possibilité que le président aille comparaître devant les députés.
Merci.
L'unique possibilité, c'est le discours du chef de l'État à la nation qu'il prononce sans débat devant le Congrès. Et en dehors de ça, il n'y a aucune possibilité que le chef de l'État congolais aille comparaître devant le Congrès. Ça ne peut pas être envisagé en droit.
Merci, professeur Jean-Claude Tshilumbay. C'est la fin de votre magazine Guimaté Donamadimba sous la supervision d'Assel Gonjo. M'ont aidé à préparer cette émission. Mise en onde, Polydor Basunga, présentation et coordination, Kelim Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.